Bonsoir, bienvenue sur Radio Osmose pour une nouvelle Electro Story. Ce soir, j'ai la chance et la joie de recevoir une figure emblématique et incontournable de l'électro en France. Un producteur qui a su démocratiser la culture électronique dans notre région, et ça, ce n'est pas rien. Il a été consacré aussi en 2017 par Trax Magazine, faisant partie des 20 personnes les plus influentes de la culture électro en France. J'ai nommé l'homme au 1001 festival, Pascal aka Peck. Bonsoir.
Salut Sawena.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Bon,
et toi?
Sur les starting blocks, là, bientôt, ouais. 9 et 10 février, on le rappellera, mais bon, c'est très, 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 très proche. Alors, je disais, l'homme est au 1001 festival, parce que Tohu Bohu, les Electro d'Uzès, Live au Pont, Résonance, Colors, le Plouf Festival, que je pense que vers chez nous, pas beaucoup de gens doivent connaître, en parlera aussi. Dernier Cri,
ouais,
Vol de Nuit.
Vol de Nuit, qui sont plutôt des soirées, mais ouais.
Mais t'es une machine de guerre.
Et ouais, tu fais beaucoup de choses. Ouais.
Tu fais beaucoup de choses. Ouais. Franchement, bravo pour la région, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup.
Merci.
Alors moi, j'ai envie de repartir au tout début, parce qu'il faut savoir que Pascal, ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu, 20 ans qu'il organise. Et je voudrais qu'on parle du tout début, de ton premier festival que tu avais fait au pied du Mont Ventoux. Raconte-moi cette fabuleuse aventure.
Alors, c'est rigolo que tu me parles de ça, parce que je pensais à ça justement ce matin, ce soir, oui. en arrivant là. Et je me souviens très bien de nos souvenirs communs, Sabrina, toi et moi, puisqu'en fait on a commencé ensemble, tu as peut-être commencé même avant moi. Mais je me souviens très bien des années Dragon Ball, où je venais travailler avec toi ou pour toi même, au bar avec tous mes copains. Donc on a commencé ensemble, voilà. Passer cette parenthèse, oui, après c'est vrai qu'on a, moi-même l'organisation, j'ai commencé avec le festival Soupacana, avec pas mal d'amis en commun là aussi, Franck, Ahmed, Gilbert, enfin tous nos potes qu'on salue, au pied du Mont Ventoux. C'était un festival de musique actuelle qui regroupait aussi des sports alternatifs type skate. On avait des potes qui descendaient le Ventoux en longboard, en skate. Ils faisaient du beach volley, on a fait du beach volley. Et c'était, au niveau musical, il y avait de la salsa, du reggae que Franck programmait et de la techno. Donc déjà,
voilà, et on peut dire, parce que tu étais étudiant en droit à l'époque, c'est ce qui t'a donné vraiment l'envie d'organiser.
C'est ça. C'est là, en fait, que j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. Et ce que je voulais faire dans la vie à partir de cette soirée-là, c'était d'organiser des événements, des concerts, des festivals.
Et oui, et comme Pascal ne fait pas les choses à moitié, il est rentré directement dans une super organisation, les Pingouins.
Voilà.
Donc tu as connu carrément l'effervescence boréaliste de l'intérieur,
ce qui
n'est pas rien. Et j'avais une question par rapport à ça. Comment tu as réagi toi quand donc celle qui devait être la dernière des boréalistes a été annulée?
Ouais. Ben en fait moi j'étais, si tu veux, je continuais mes études et c'est comme ça que j'ai fait des stages. Et en fait j'ai fait un stage chez le producteur du festival Boréalis, qui était associé au Pingouin. Donc j'étais un peu chez le vilain petit canard de la bande, puisque c'est vrai que c'était les Pingouins qui avaient le projet artistique dans les mains, et moi le producteur c'était vraiment plus les aspects financiers, etc. Et ils s'entendaient pas toujours très bien.
D'accord.
Mais en tout cas c'est vrai que je l'ai vécu de l'intérieur, et c'est vrai qu'il y a eu, c'était l'année de la tornade, je sais pas si tu te rappelles.
Oui, donc, c'est pour ça avait été annulé en cause d'une tornade.
Il y avait une tornade qui avait fait tomber la grande roue de Palavas à l'époque, tellement c'était violent, et puis il y avait des inondations partout, et tout le monde était, tous les artistes avaient joué le jeu, ils étaient allés jouer dans les divers lieux de Montpellier à l'époque. On pouvait voir Laurent Garnier, Jeff Miles ou Manu Malin à la Villa Rouge. Enfin bon, c'était assez traumatisant. C'est vrai que c'était une expérience quand même très particulière. Et j'en garde un souvenir. J'étais jeune en plus à l'époque, mais c'est vrai que je garde des Pingouins un très très bon souvenir en tout cas.
Et on ne le savait pas encore, mais ça sera la dernière des Boréalistes finalement, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres après.
Non,
hein.
Non.
Donc justement, dans ce contexte un petit peu, on va dire, pas très positif pour l'électro, parce qu'elle a une mauvaise image. Pas en cause de producteurs, justement, pas très scrupuleux et pas professionnels. Mais quand même, tu te démontes pas et tu décides de monter ta boîte de prod dans ce paysage un petit peu compliqué, on va dire. Alors moi, la question, c'est comment as-tu su convaincre les pouvoirs publics de faire à nouveau confiance à la jeunesse et à l'électro?
Alors en fait, si tu veux, quand après sur les ruines entre guillemets de Boréalis, le maire de Montpellier, qui était à l'époque Georges Fraîche, est allé voir le directeur du Festival de Radio France, qui est un gros festival de musique à Montpellier qui existe depuis 30 ans et qui programme de la musique classique, du jazz essentiellement. Et donc il est allé voir le directeur du festival, qui s'appelait René Koering et qui était un ami à lui, en lui disant voilà, maintenant il n'y a plus Boréalis à Montpellier, il faut que tu continues à faire de l'électro. Et donc à ce moment-là, ce directeur René Koering a fait appel à moi. moi par divers réseaux en me disant est-ce que ça vous intéresserait de créer une programmation de musique électronique dans le cadre du festival. Et on a convenu de créer cette programmation qui s'appelle Tohu Bohu et qui existe maintenant depuis 18 ans puisqu'on fera la 19e édition année, c'est énorme. Et donc cette programmation qui a lieu chaque année dans Montpellier, dans le quartier d'Antigone et puis maintenant depuis 3 ans devant la mairie, se déroule entre 19h et 22h et elle est gratuite et elle a beaucoup participé à la démocratisation, à la popularisation de la musique électronique dans la région. Parce que du coup, Radio France déjà officialisé, donné une légitimité artistique à ces musiques-là. Et au-delà de ça, ça se passait en plein jour, à 19h, devant un public de 3 ou 4 000 personnes. Et ça se passait très bien et ça se passait dans Montpellier. Du coup, c'est vrai que les gens ont compris que finalement, la techno, c'était pas uniquement une musique de drogués dans des rêves, etc.
Exactement.
Voilà. Et donc, ça plus le reste des événements qui ont enchaîné, c'est vrai que ça a fait beaucoup pour faciliter les relations entre techno et
justement,
médias.
Justement, quand on a une vingtaine d'années et qu'on a un monsieur comme René Coering nous propose de gérer la partie électro de son festival Radio France, comment on se sent? Tu devais avoir la pression
Ouais, en fait, la première fois quand on m'a amené, c'était à la place Dionysos, dans le quartier d'Antigone, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent, mais c'est tout de suite à l'entrée de Montpellier, entre la bibliothèque centrale et la piscine olympique. Sur cette petite place, on m'a dit, voilà, tu vas faire des concerts techno à 19h, ici, pendant une semaine.
Oh là là,
j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, ça marchera jamais, ça sera un flop. Et ça a été tout le contraire.
Ça
a marché tout de suite. Le premier concert, c'était Frédéric Galliano et les divas africaines, qui était signé sur le label FCOM à l'époque. Et il y a eu tout de suite beaucoup de monde. Et au contraire, finalement, c'est ça qui a fait la réussite de ce projet. C'est les horaires, ce sont les horaires, c'est la gratuité, et c'est pour ça que ça marche.
La gratuité, ça marche, ça plaît bien. Mais justement, c'est ce qui est fabuleux, c'est que tu arrives à être partout. Dans l'année, tu fais tellement de festivals, mais comment tu fais? T'as des assistants, rassure-moi.
Ouais, alors il y a des équipes partout, des super équipes dans tous les festivals pour lesquels je travaille.
Et justement, tu trouves pas que Montpellier, par rapport à Lyon, Marseille, Paris, ils sont un peu à la traîne. Hein.
C'est clair.
Par rapport à ce qu'ils étaient vraiment level à un moment donné, maintenant je trouve qu'ils sont un peu à la traîne, moi.
Ouais. Il y a une grosse baisse à Montpellier depuis quelques années. Et nous, on le voit très bien quand on est à Avignon. Parce que du coup, pendant très longtemps, tous les week-ends, quand on sortait, on partait vers Montpellier. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on part vers Marseille ou vers Lyon, mais plus du tout ou très peu vers Montpellier.
C'est une volonté politique à Montpellier ou...
Je crois qu'il y a eu après la vague bar live, donc il y a eu les époques boréalistes où vraiment Montpellier, après Paris, c'était vraiment la ville en France. Après, il y a eu un petit creux, puis il y a eu les années bar live qui a vraiment résonné dans toute la région et tout. Il y a eu vraiment, ça a été très fort à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, après à la fermeture de ce club, ça s'est un peu effondré. En fait, à Montpellier, il n'y a pas vraiment de scène de DJ. Enfin, il y a, mais c'est des micro-scènes. Alors qu'à Marseille, ils sont fédérés, par exemple, derrière la Dame Noire ou des clubs. Il y a des collectifs qui ont beaucoup fait et qui font que Marseille, aujourd'hui, par contre, c'est le gros buzz. Quoi. Et Lyon, encore plus.
Oui, c'est pour ça. J'avais un petit peu de peine pour Montpellier parce que c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Et sinon, une question, parce que tu parlais tout à l'heure de 18 ans, les électros du ZES, pareil, 18 ans. Alors, quel est ton secret pour pérenniser tes festivals?
Je sais pas trop.
Si tant est qu'il y en ait un.
Non, je pense qu'il faut. C'est important de se remettre en question tout le temps sur les programmations et tout. Moi, je sais qu'il a fallu que je le fasse, qu'il faut que je le fasse tous les jours parce que ça change tout le temps. Les gens ont pas du tout envie. Les jeunes d'aujourd'hui ont pas envie d'écouter la même chose que leurs aînés. Tout change perpétuellement. Donc, il faut savoir se remettre en question. Je crois que. En fait, c'est des festivals qui sont apparus assez tôt, donc c'est vrai qu'ils sont un peu comme des repères dans l'agenda des gens qui aiment la musique électronique.
Oui,
ils sont attendus maintenant, exemple, tu vois Uzès, c'est un festival qui est attendu, qui est assez drôle parce qu'on traverse la fête foraine, c'est 10 balles l'entrée, donc c'est pas cher pour voir des artistes comme ça, c'est vraiment une ambiance très cool. Voilà, après, bon, on pourrait en parler individuellement de chaque festival, mais tu vois, par exemple, Résonance, c'est autre chose, c'est plus sur le patrimoine, etc. Donc, ils ont tous des spécificités.
C'est ça, t'as réussi à faire plusieurs festivals, mais qui ne se ressemblent pas.
Ouais, j'espère.
Moi, je pense que c'est le cas. Mais justement, quand on voit que Tohu Bohus, Colors, Electro Duzès, Résonance, c'est quoi? C'est 3000, 5000 personnes à chaque fois. Et justement, à chaque opus, il n'y a aucun dégât à déplorer. Il y a pas, bon, si c'est des petits problèmes, je pense que c'est vraiment mineur. Donc, ça aussi, quelle est ta ligne de conduite quand on organise des événements pour que ça se passe vraiment bien?
Ça, c'est sûr que c'est primordial. Hein. La sécurité du public, les relations avec les institutionnels, les gens qui nous donnent les autorisations, bon, ça a toujours été, c'est sûr, ça a toujours été ma manière de travailler. C'est aussi pour ça que ça fonctionne, et c'est aussi pour ça, je croise les doigts, qu'on n'a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. En fait, on a des commissions de sécurité qui se réunissent, on a les pompiers qui viennent au préalable dans les événements, qui regardent, qui nous donnent des consignes à respecter. Voilà. Donc on a des sociétés de gardiennage.
On peut dire
que
ton secret, c'est la rigueur et le professionnalisme.
Deux mots. Ouais. J'espère.
Sinon tu serais pas là depuis 18 ans. Hein.
Ouais, 18 ans.
Ensuite, encore 18 ans de plus. Ouais, hein. Ouais. Alors justement, tu es anciennement programmateur du Live au Pont, du fameux Live au Pont. Et là, attention, on explose le plafond de verre. On n'est plus à 3000, 5000, on est à 30 000 personnes à chaque opus, même chaque soir. Comment, c'est 30 000 sur les trois soirs?
Non, c'était plutôt entre 10 et 15 000 par soir. Mais
d'accord,
sur deux soirs.
Donc sur deux soirs, on va dire qu'il y a 30 000 personnes qui se sont bougées pour venir danser face au plus emblématique pont antique de France. On peut dire, au même du monde, hein. Donc j'ai nommé le pont du Gard, et du coup c'est toujours des scènes impressionnantes, ça aussi il y a une organisation de fou pour revenir installer cette scénographie qui a coupé le souffle, on va dire. Donc tu as fait venir des artistes quand même incroyables qu'on n'attendait pas, de la Soule, Hocus Pocus, je veux dire, IAM, Cypress Hill, j'en ai noté tellement, London Grammar, Brigitte, qui attendait Brigitte dans un festival comme ça,
c'est
non
clair.
Lilywood and the Bricks, ça c'était pas mal aussi, et je pense que je peux pas tout énumérer parce qu'on aurait besoin de la journée. Donc ma question est, comment as-tu vécu l'arrêt de ce fabuleux festival qui marchait très bien et qui était très attendu?
Je l'ai vécu pas très bien, parce que c'est vrai qu'on est attaché à ces festivals. Ils font vraiment partie de nous et on est vraiment très attaché à ces événements. Du coup, c'est une décision politique, hein, finalement. Je crois que...
Il ne voulait pas réitérer.
En fait, il y a eu une baisse de subventions importante du département du Gard en direction du site du Pont du Gard. En fait, le site du Pont du Gard, c'est un établissement public. Et donc, le site ne voulait pas prendre le risque de produire un événement, parce que si jamais ça ne marchait plus, ça aurait été peut-être au détriment de l'emploi des salariés.
Oui,
et c'est vrai que, un festival, même si c'est très beau et même si on en a très envie, l'important, c'est quand même de préserver l'emploi de ceux des gens qui travaillent, et il y a des priorités, quoi.
C'est vrai, mais malheureusement, la culture ne vit pas sans subvention. Hein.
Non,
c'est
compliqué. Là, c'est, si tu veux, dans tous ces événements-là, en fait, tous ces gros événements en France sont subventionnés, tous. Il n'y en a aucun qui arriverait à se financer à 100%. Donc après, il faut voir le niveau de subvention. Mais c'est vrai que c'est normal qu'ils soient aidés par des fonds publics, parce qu'ils amènent énormément de dynamisme économique.
Oui.
Ils font tourner des hôtels, des restaurants.
C'est pour ça
ils amènent beaucoup en images, etc.
Je ne comprends pas.
C'est des décisions politiques.
Ouais,
c'est assez dommage parce que c'est vrai que je pense qu'il était vraiment attendu et il dépassait vraiment le cadre de la musique électronique.
Ah oui,
tout le monde avait envie d'y aller.
C'est pour ça que j'ai Hocus Pocus, de la Soul, IAM, Cypress Hill.
Exactement.
Je veux dire, il n'y a que toi pour avoir fait ça, parce que
après, festival de Nîmes, il y a plein de festivals aussi, mais c'est vrai qu'à Nîmes, c'est plus une suite de concerts.
Là, c'est vraiment, on a tout d'un coup, tout d'un bloc. Voilà, on pourrait même sortir que deux soirs dans l'année.
Ouais, c'est vrai que c'était chouette. Et
puis on en prenait plein les oreilles et plein les yeux, je tiens à le dire. Une organisation vraiment cousue main, quoi, millimétrée.
Les gens du Pont du Gard qui travaillent là-bas, Hervé Midos avec qui je travaillais, et toutes les équipes techniques, c'est vraiment très très fort. Quoi.
Voilà. Et donc justement, on va rester dans le patrimoine. Il y a 9 ans, pour moi, c'est un coup de maître. Tu crées Festival Résonance, où tu mêles, où t'entremêles le patrimoine avignonnais et la musique électro. Cette idée, elle t'est venue en discutant j'aimerais savoir.
Alors en fait, on l'a créé à trois avec Gilles Gutiérrez et Julien Poletto, là, qui travaillent toujours avec moi. Et du coup, en fait, l'idée, c'était partant de l'expérience qu'on avait eue au Pont du Gard, justement. Et Julien, lui, travaillait à Arles et il faisait des concerts dans le théâtre antique. L'idée, c'était on voyait bien que ça marchait. On voyait bien que ça marchait de programmer programmer des concerts de musique électronique sur des lieux patrimoniaux. Et on s'est dit, si on se sert de la musique électronique ou des musiques actuelles pour amener un public qui ne vient pas d'habitude sur ce monument à découvrir ou à redécouvrir le patrimoine, ça serait génial. Et en fait, on a trouvé des interlocuteurs à la mairie d'Avignon. À l'époque, c'était Madame Rouague et donc il y avait eu le directeur des affaires culturelles qui était Jacques Montaignac, qui voyant que ça a fonctionné au Pont du Gard, à Arles, etc., nous a dit pourquoi pas. Et donc on y est allé et on s'est dit et maintenant on s'aperçoit que ça fonctionne toujours, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'Avignonnais qui n'étaient pas montés sur le pont d'Avignon, qui connaissaient pas le musée Calvé, qui connaissaient pas la collection Lambert, ou d'autres endroits comme ça. Et du coup on voilà, donc on fait découvrir grâce à ça, on fait découvrir des lieux et ça c'est
et ça cool, c'est quoi. Moi je suis très fan de Résonance, du truc, c'est un coup de maître d'avoir donc justement mélangé nos petits bâtiments patrimoniaux. Il y en a un paquet à Avignon et c'est vrai qu'on les connaît pas tous, et ça c'est bien, tu les as remis au goût du jour. Donc mis à part un dénominateur commun qui est une méga belle programmation, est-ce qu'il y aura des surprises pour 2018?
Alors c'est les 10 ans du festival en 2018 de Résonance, donc on essaye de faire mieux encore.
Voilà, à chaque fois de toute façon c'est toujours mieux, toujours plus haut.
En tout cas, on essaye au moins de maintenir l'équipe.
Tu changes un peu le format.
Après, les jauges sont assez petites pour Résonance, donc c'est pas très compliqué de remplir les lieux, puisque on n'a pas des capacités très, très importantes. L'important, c'est plus de réussir justement le mariage entre les lieux et la programmation.
Super. Et donc maintenant, on va passer au Colors. Donc le Colors, il a 8 ans ou 9 ans cette année? Moi, j'ai noté 8 ans, mais peut-être.
On a fait 8 éditions d'été et 5, ça sera la 5e édition d'hiver.
La 5e édition d'hiver. Et justement, qui aurait cru quand même que sur le sol comtadin, on voit des artistes aussi prestigieux et confirmés quand même que Laurent Garnier, Jeff Mays, Masséoplex, Nina Kravitz, Étienne de Crécy, Adam Beyer, Kavinsky, Samba Ganini, Birdie Nam Nam, non mais Ida Inberg, Mister Oiseau, Shana Isma, Dirty Phonic, etc. Paul Nasca, enfin tous ces stars entre guillemets... plus ou moins vraiment connus internationalement parlant, qui aurait cru les voir un jour sur le sol comtadin à Carpentras? Alors, est-ce que tu crois pas quand même, est-ce que tu as conscience que tu as rendu ces lettres de noblesse à Carpentras?
C'est génial que tu dises ça.
Ah oui, je pense.
Ça fait vraiment plaisir parce que c'est ce qu'on voulait faire en fait au départ avec un peu la même bande de potes d'ailleurs avec qui je faisais Soupacana et notamment Antoine Tinlo. Bon, bref, du coup, l'idée quand même de départ de Color, c'était de dire on vit à Carpentras, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre ville pour essayer d'en changer un peu l'image. Voilà, ça c'était il y a 10 ans parce qu'il y a 10 ans à Carpentras, c'était le cimetière juif.
C'est le cimetière, le FN et voilà. Ouais, c'est vrai.
Donc les gens parlaient que de ça. Quand ils parlaient de Carpentras.
J'aimerais rappeler que Carpentras a été pendant 562 années jusqu'en 1791 une terre papale et une terre vraiment très très riche culturellement parlant
et de mélange de population.
Ah oui, mélange de population, c'est pour ça, donc c'est bien.
Et du coup on s'est dit moi je savais faire ce que je savais faire, c'est-à-dire des festivals de musique, et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on lancerait pas ça. Et donc on a profité de la venue d'un nouveau maire qui s'appelle Francis Adolphe, qui est un maire très dynamique et qui avait envie de faire des événements dans sa ville et lui aussi de changer un peu l'image de la ville. Et il nous a dit allez banco, on y va, je vais vous aider. Il nous a aidé d'ailleurs, il nous aide toujours.
C'est génial.
Et on s'est dit tout de suite que si on voulait que ça marche à Carpentras, il fallait qu'on tape fort en termes de programmation. C'est-à-dire que on n'est pas à Montpellier ou à Marseille.
Le coup de massue même.
Si on veut vraiment que les gens viennent à Carpentras, parce qu'il faut venir à Carpentras, vous doutez bien que c'est beaucoup plus facile pour un Carpentrasien d'aller à Montpellier que l'inverse. Donc pour qu'ils viennent à Carpentras, il faut vraiment amener des gros noms. Et c'est ce qu'on a fait dès le début.
Bravo.
En 2012, il y avait Paul-Karl Bremer, comme tu disais,
ou Rockers, etc. Mais c'est énorme.
Et ça a marché grâce à ça.
C'est énorme parce qu'à chaque fois, tes programmations, elles sont toujours... c'est éclectique, mais c'est toujours un bon niveau. Quoi. C'est que des gens que... Et tu nous fais découvrir aussi des nouveaux artistes. Ça
mais
aussi,
c'est ce que j'essaye de faire,
On découvre beaucoup de nouveaux artistes. Et justement, alors, ce qui t'anime quand tu fais quelque chose sur Carpentras, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime de plus quand tu fais le Colors ou quand tu fais ton Ubuk à Montpellier?
En fait, je crois qu'ils sont tous différents et j'ai beaucoup d'émotions dans chacun d'entre eux. Vraiment, je peux pas dire qu'il y en a un plus que les autres.
Voilà, parce que c'est la ville où t'as grandi.
Quand je suis à Carpentras, je suis chez moi, c'est sûr, tu vois. Donc, partout, j'ai ce truc, un peu cette boule au ventre,
la pression,
en fait. Tu vois, partout, j'ai envie que ça marche, quoi.
D'accord. Donc, si tu veux, on peut parler du programmation du Colors d'hiver. Donc, je rappelle que ça se passe le 9 et 10 février à l'Espace Ozon à Carpentras. Comme d'habitude, c'est des soirées à deux couleurs différentes. On va dire que c'est un peu plus house mélodique le vendredi. Et le samedi, on monte les BPM, c'est techno, quoi.
Exactement, oui. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 2-3 ans à Colors, puisqu'on a deux soirs. On essaye d'avoir une programmation un peu plus ouverte musicalement sur le premier soir et vraiment techno le second, puisque c'est l'ADN de Colors, c'est quand même de programmer de la musique électronique pointue. Maintenant, on se rend compte qu'en faisant deux soirées pointues, on n'arrive pas à rassembler un public suffisant. Donc, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'irait pas programmer des artistes électro plus mainstream. C'est ce qu'on fait cette année avec Ento ou Bon Entendeur sur la soirée du vendredi. C'est ce qu'on a fait par le passé avec Petit Biscuit, Ozzy Aldner ou des choses comme ça. Donc, c'est des artistes qu'on respecte aussi, et il n'y a pas de problème, c'est pas parce que c'est de la musique qui est plus commerciale qu'elle est de moins bonne qualité. Simplement, c'est vrai que l'ADN du festival, c'est quand même la techno pointue, underground, quoi.
Tu fais toujours la part belle aux filles, hein, aussi, hein, des DJs, elles sont là. Là, il y en a deux.
Trois.
Il y en a trois, pardon, excusez-moi. Ouais. Moi, j'ai surtout noté la belle parisienne Aneta.
Ouais. Qui est une super DJ, tu dois bien aimer sa musique en plus. Ça on voit quand même bien, elle joue acide techno, ouais, et c'est super.
C'est la petite protégée, je crois, de Carl Cox, on va dire.
Ah bon, d'accord,
tu vois. C'est sa petite protégée.
Mais il y a aussi, donc il y a Anna aussi,
qui est la brésilienne
qu'on a très très peu vue pour le moment dans la région, ça c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis il y a Sliaz qui est une DJ de la région, qui est présentée par le label Way of House. En fait, l'idée que j'avais, tu sais, c'était d'essayer de mettre en avant le plus possible des artistes, des collectifs ou des labels régionaux. Donc, c'est ce qu'on fait là dans la programmation de cette année. On a demandé à des labels ou des collectifs de nous présenter ou de nous proposer eux-mêmes des artistes qu'ils aimeraient mettre en avant.
Parce que vous faites venir le collectif Culturaliste, ils sont très bons aussi.
Excellent. Nabil et Arnaud Chabert.
Et Arnaud Chabert.
C'est un des super DJ que j'avais eu l'occasion de faire aux Electro du Zest. Oui. Et en plus, c'est des gens que j'aime beaucoup, qui font des soirées hyper intéressantes à Marseille, avec des sons très radicaux aussi en termes de techno. La Sliaz, elle, c'est une jeune DJ nîmoise, donc montpellierenne, qui est soutenue par Way of House, donc le label de Greg Delon à Nîmes, dans une veine un peu plus house et deep. Donc, c'est lui qui a décidé de mettre en avant cet artiste-là. L'idée, c'était plutôt que d'aller jouer lui, qu'on a déjà vu, c'était plutôt de mettre en avant des artistes en devenir, quoi. Et d'accord. C'est le cas aussi pour le label Azur, qui est un label, le Mélo Collectif, c'est un gars de Bédouin, en fait. Donc, on le supporte depuis très longtemps, qui vit à Marseille maintenant, qui est un super producteur. Et donc, son label Azur, lui, propose, avec son label Azur, il propose Clem et Lenski. Lenski qui fera des percus. Et Clem, qui est un DJ que j'aime beaucoup. En fait, il travaille en plus sur le festival. C'est des gens qui sont très proches de nous et qu'on a envie de
pousser,
montrer sur scène.
Bien sûr,
quoi, vraiment,
bien sûr.
Quoi,
mais c'est bien. C'est aussi le but, aussi, c'est de faire marcher un peu le local, le régional.
Ouais, c'est ce qu'on veut. Ouais. On veut vraiment ça, quoi. Et Théo, là, donc le vendredi, qui est lui un peu plus confirmé déjà maintenant, mais qui est un artiste montpellierain aussi.
D'accord. Donc je pense que ça va être encore une belle édition.
J'espère.
Mais oui, il est très anxieux, Pascal. Mais ça marche depuis 10. Enfin, pas le Colors, mais bon, ça fait quand même 20 ans que tu es dans le milieu. On peut dire que tu n'es pas un imposteur. Et surtout, tu fais les choses correctement et carré. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça. Hein. Donc justement, maintenant, je vais te faire un petit portrait chinois.
D'accord.
Et l'un ou l'autre, j'appelle ça. Alors, le portrait chinois. Si tu étais une ville.
Un New York.
Un animal.
Un panda.
Une série télé ancienne ou nouvelle. Hein, quoique Monsieur Morin n'a pas le temps de regarder la télé. Hein.
Si. Je dirais The Wire.
D'accord. Un objet.
Une platine.
Un DJ connu. Un DJ, tout simplement.
Je vais dire Laurent Garnier.
D'accord, on l'aime trop. Ouais. Et un festival. Ça peut être un des tiens, tant pis, c'est pas grave. T'es pas obligé
Les Nuits Sonores.
Les Nuits Sonores, ouais. Super. Donc ensuite, l'un ou l'autre. Bonnet ou casquette?
Bonnet.
Slip ou caleçon?
Caleçon.
After ou before?
Before, je trouve bien maintenant.
Comptoir ou dancefloor? Toi, ça serait backstage, là, du coup.
Quoi, je vais dire comptoir, parce que comptoir. Je suis pas trop dancefloor.
Blonde ou brune?
Brune.
Et le matin, c'était ou café?
Café.
Café, ok. Et j'aimerais parler aussi de ton actu, parce que tu vas jouer dans une Pimousse, la Pimousse 6. Donc tu seras aux côtés de Jules Autochtone, Aladdin.
Ouais, ça va nous rappeler des souvenirs.
Exactement.
Tu seras là?
Je serai là, super. Je serai là. Paul Nasca, Lo Pagani, Nikita et Tawa Girl. Elle en voit grave aussi, Tawa Girl, comme Nikita, super. Ça va être sympa. Et j'aimerais demander, sinon avant de conclure, toi, quelle est ta ligne de conduite, ta devise? Quelle est ta devise dans la vie?
Moi, j'aime bien l'idée d'être honnête.
D'accord.
Voilà. Je ne sais pas si c'est une devise, mais j'ai pas de devise.
Sois honnête aujourd'hui, ça paiera demain.
Ouais, voilà.
Ok. Alors moi, je tiens aussi à dire quand même que tous tes festivals sont étonnants. C'est quelque chose dont on entend parler de partout. Et j'aimerais te souhaiter une longue vie de producteur de festival.
Merci.
Et aussi de DJ.
Et moi, d'animatrice radio, parce que je t'en sors très bien. Bravo, Sabrina. Ouais, super. Bravo.
C'est gentil, Pascal. Bravo. Merci. Et justement, avant de conclure, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues au bar La Place vendredi dernier. On avait fait c'est le collectif Interlude, je ne sais pas si tu connais, Nat et Lopagani, qui avait mis en place une.
J'ai pas pu y aller, mais c'est super.
C'est super.
Super action.
On a quand même récolté 906 €.
Génial.
Sur juste des petites entrées comme ça au bar. Donc je voulais remercier tous les gens qui avaient joué le jeu. Et je vous donne moi rendez-vous vendredi prochain, vendredi 2 février, donc même heure, même place. Je reçois la relève locale. J'ai nommé un DJ très prometteur, Maxime Julien. Voilà. Tchuss.
Merci beaucoup.
Merci Pascal.
Don't.